pour les auditeurs, on est dans la troisième et dernière soirée probablement de jeu de Starfall over the Plateau of Lang. Et si vous vous souvenez, notre Luron était avait rêvé
un dirigeable,
voilà, le mot m'échappait, et était en train de voler en direction du phare.
Un grand coup d'aile.
Sinon, ça c'était ce qu'on avait fait, mais le scénario global, vous avez le résumé encore un peu, je vous le résume. Vous aviez été enquêté sur la disparition d'une nana. Je vais résumer brièvement. Vous avez été enquêté sur la disparition d'une nana, vous êtes allé à Eureka Spring, une ville célèbre pour ses sources thermales. Vous avez visité un institut du sommeil, et puis vous êtes rendu compte que tout le monde était mort à l'intérieur.
Il remet très bien.
Sauf le directeur qui avait disparu. Donc la fille que vous deviez retrouver était morte à l'intérieur du centre du sommeil. Et puis vous êtes allé dans. Vous avez découvert une grotte, et tous les personnages, sauf Moros Bryce, ont plongé dans la grotte et sont retrouvés dans les contrées des rêves, suivant les traces. Enfin, il y avait une pantoufle du directeur qui était au bord de l'eau. Et puis Moros Bryce a trouvé le moyen d'apprendre à rêver pour rentrer dans le pays, les contrées des rêves, les contrées du rêve. Et dans la deuxième soirée de jeu, vous avez rencontré les Cho-Cho, vous leur avez dit bonjour et puis vous êtes parti. Et puis vous êtes allé au monastère de celui qui ne peut pas être décrit. Je pense que parfois, la dernière fois, je me suis parfois trompé, j'ai dit celui qui ne peut pas être nommé, mais ça c'est à cause de Voldemort. Je comprends que Voldemort. C'est le prêtre qui ne peut pas être décrit. Vous êtes allé dans son monastère, vous avez trouvé l'état, les rêveurs des gens qui sont morts dans l'Institut du Sommeil. Vous avez retrouvé d'ailleurs la fille que vous étiez en train de rechercher, enfin son...
Ce qu'il en restait.
Ce qu'il en restait. Et puis vous avez rencontré donc le fameux prêtre qui ne peut pas être décrit. Il a parlé à, il vous a parlé dans la tête, il a donné un cadeau, donc une flûte à Moros Bryce, il lui a laissé un tatouage sur le poignet, et tout d'un coup, Moros Bryce sait comment traverser les contrées du rêve, connaît la géographie du plateau de Lang, et sinon, oui, d'ailleurs, certains d'entre vous avaient réussi à entrepercevoir sous l'apparence très belle du prêtre.
En fait, c'est une grenouille.
Un moon beast, un monstre de la lune, une créature de la lune. Et puis voilà, vous étiez reparti avec votre flûte et vos connaissances. Vous aviez décidé de ne pas traverser de manière souterraine. Vous ne vouliez pas aller passer chez les ghouls. Vous avez décidé de ne pas passer à pied. Vous avez décidé de. Vous ne vouliez pas vous faire les araignées de Lang. Et donc vous avez décidé de rêver ce dirigeable. Et vous êtes actuellement en train de voler.
Mais on s'en rêvait de ce dirigeable. C'est littéralement un rêve qui se réalise.
Et donc les, vous étiez à la recherche de la fille, vous avez découvert qu'il n'y avait rien à faire pour elle, mais quand Moros Bryce était descendu l'escalier avec les deux prêtres qui gardent l'entrée des contrées des rêves, ceux-ci lui avaient demandé de retrouver l'autre personne disparue qui était le bon docteur. Hein. Mm-hmm. Donc c'est lui que vous cherchez pour l'instant. Et vous suivez la lumière du phare parce que vous avez vu un météorite qui allait s'écraser dessus.
Ça, yep.
Ça vous a remis les éléments en tête?
Ouais.
Et donc, pour rappel, le plateau de Lang, c'est une immense toundra, mais avec des grands blocs de... ce que je pourrais dire, du basalte, quelque chose comme ça. Enfin, c'est des grandes épines rocheuses qui se dressent vers le ciel, et entre ces épines rocheuses, il y a des toiles d'araignées sur les rochers, ou carrément qui passent
de vallée en vallée.
De vallée en vallée, voilà. Et donc c'est un paysage assez impressionnant. Hein. La description qu'ils en donnent ici, c'est la vue du plateau vous donne des frissons qui parcourent votre âme. Parce que évidemment, vous voyez les araignées qui se promènent sur les rochers, etc.
Ouais, des petits points. Mais en fait, comme on est à 3 km, ces petits points, c'est des maisons.
Ce sont des gros points déjà, même là.
Votre seul soulagement, c'est que vous pouvez, vous ne pouvez pas vous perdre, parce que jour et nuit, vous pouvez suivre, enfin, vous diriger avec évidemment la lumière du phare de Leng, parce que si vous vous souvenez, il y avait une énorme colonne de lumière qui sortait vers le ciel. Là.
Et on est bien haut au-dessus du plateau là pour l'instant.
Oui, oui, oui. Oui.
Là, on reste bien haut. Hein.
Oui, parce que je viens de rappeler que les araignées sont si sauteuses.
Ouais, c'était celle-là.
Oui.
C'est des joyeusetés, les araignées de Leng.
Elles sont tellement vieux là où elles sont. Dans leur habitat naturel. Bien dans le sol, là.
Voilà, et alors en fait, vous allez, on va reprendre au moment où votre dirigeable, donc ça fait en fait 3 jours que vous avez survolé le plateau. Et voilà, vous avez survolé le plateau sans trop de problèmes, vous avez slalomé entre les pics de granit, vous avez évité les différentes toiles d'araignée, vous êtes resté bien haut pour qu'elles ne soient pas. Vous ne soyez pas pris dans la toile évidemment. Et au bout de 3 jours de vol ininterrompu, vous arrivez donc à proximité du phare. Alors le phare, en fait, il se trouve au milieu d'un lac. Donc il y a un énorme lac qui entoure le phare. Et ensuite, il y a vraiment une petite île et un bloc de granit. Et puis au-dessus du bloc de granit, il y a la structure du phare lui-même. Et au-dessus, il y a le cône de lumière qui s'élance vers le ciel des contrées des rêves. Et évidemment, il y a en fait au bord du lac un petit ponton qui donne sur le lac. Parce que, comme je viens de le décrire, en fait, il n'y a pas l'espace pour atterrir votre dirigeable sur le phare, en fait. Mmh. Parce qu'il y a vraiment juste l'île et puis le phare au-dessus, enfin le bloc de granit et puis le phare. Mais il y a un petit ponton et le personnage de Morris Bryce sent que c'est par là qu'il doit aller. Tu es
au bout du rayon de lumière. Qu'est-ce qu'il y a comme tache de lumière dans le ciel? C'est pas une chauve-souris?
Non, c'est juste.
Merde.
C'est juste le cône de lumière et maintenant vous pouvez peut-être commencer à apercevoir le météore qui est en train de s'approcher.
Tu sais ce que je vais faire, je vais couper un stencil de Batman sur la lampe.
Tu peux le rêver, mais...
Ouais, donc effectivement, il y a l'air d'avoir une lampe très très puissante au sommet du phare, même si évidemment, au lieu de faire une lumière latérale, il fait une lumière verticale. Mais c'est très exactement l'impression qu'on...
La structure, elle fait quelle hauteur, à peu près comme ça? C'est grand comme un phare classique ou c'est vraiment un truc titanesque?
Oh non, c'est un truc titanesque, hein. Je disais, c'est un peu plus comme style la tour de Sauron. Hein.
C'est
d'accord, ouais. Et on peut pas aller directement au-dessus avec le dirigeable? Au lieu de se taper les escaliers jusqu'en haut? Parce que titanesque.
Ouais, mais tu n'as pas l'impression qu'il y ait des points d'accès au sommet en fait. La seule porte que vous pouvez regarder, si vous regardez à la jumelle, se trouve au niveau de. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien sur ce. C'est une sorte de colonne comme ça.
C'est un cône quoi.
Ouais.
Un tube.
Ouais. Là, la seule entrée, il y a une petite porte qui donne au-dessus du monde de la structure en granit. Là, il y a l'entrée du phare, mais c'est vraiment minuscule quoi.
Ouais, elle va faire 6 mètres de long. Oh, pareil. Vu la distance, non?
Non, mais en tout cas, là, ce que vous devez vous dire en contemplant la scène, c'est que vous allez devoir escalader le cône de granit pour trouver la porte.
Il faudra rêver un ascenseur haute vitesse.
On peut essayer de rêver.
Bon.
Voilà, et toi, le Morris Bryce, avec la marque qu'il a reçue, sent qu'il doit passer par. Parce que tu sais, t'as une
ça me gratte.
Sens instinctif de la route à prendre.
C'est pas déjà comme marque.
La marque du roi en jaune.
Ah oui, c'est vrai.
Et donc, le ponton en fait, qui donne sur le lac où se trouve le. T'as l'impression que si tu vas là et que tu joues de la flûte, ça résoudra le problème de traverser le lac.
On est sur un dirigeable et la nacelle c'est un bateau.
Donc, oui, tu veux à l'acquire
s'il faut. Tu sais jouer de la flûte toi?
Moi, non. C'est pas dans mes compétences.
Est-ce que je sais jouer de la flûte moi?
Mais je crois que c'est une flûte, il faut pas savoir en jouer.
Il faut pas spécialement savoir en jouer, je pense.
Mais attention, la flûte c'est l'arme la plus dangereuse dans cet univers. La dernière fois qu'on a entendu des flûtistes, c'était l'apocalypse. Hein.
Ah, mais si vous voulez pas passer par l'étape jeu de la flûte, à mon avis, effectivement, si vous aviez bien décrit que c'était une sorte de bateau, le
c'est comme scène, ça.
Donc, ouais, c'est ce que vous aviez décrit. Donc,
on peut essayer de la flûte. Non, mais si, on joue de la flûte pour voir ce que ça donne.
Okay.
Je fais deux notes, plus.
C'est toi qui as le tatouage, ça y est.
Bah si le truc me gratte et dit joue de la flûte, je joue de la flûte. À mon avis, il doit falloir jouer Frère Jacques. À mon avis, tout le monde sait jouer Frère Jacques.
Bon, on va dire que de toute façon, pour le début du scénar, comme ça, vous descendez de la nacelle et vous allez donc sur le ponton. Et tu te mets à jouer de la flûte et effectivement, toute l'eau du lac se met à geler devant toi. Et ça crée un chemin vers le phare, donc ça, il n'y a plus de problème pour accéder au phare.
On attache le bateau.
On sifflant chez Frère Jacques, Emma.
On attache le bateau.
On attache le bateau. On jette l'ancre.
Ouais, bah, comme ça le bateau reste en fait pas prise de la glace, elle reste en l'air et on la marre bien pour comme ça il bouge pas et on peut toujours y partir d'ici au besoin quoi.
Voilà, et alors quand vous commencez à progresser lentement sur la surface gelée, vous rendez compte qu'en fait ça a l'apparence de comme si l'eau avait gelé, mais en fait l'eau n'est pas la glace n'est pas du tout glissante en fait, vous êtes tout à fait stable.
Comme de la pierre.
Voilà.
Ah, l'eau s'est pétrifiée.
Mais c'est un ponton qui mène nulle part, alors c'est un plancher sur quatre piliers au milieu du lac.
Exactement, ouais, c'était ça que je voulais dire. Ouais.
Bizarre.
Vraiment dans les contrées.
Ça vous donne un endroit pour jouer de la flûte en fait.
Ouais.
En gros, c'est ça.
T'as pas vu le panneau jouer de la flûte ici ?
Oui, plus on avance. En fait, je vous préviens, le scénario ici, on arrive dans la partie David Lynchienne du scénario. Donc...
On peut commencer à
J'espère finir. Que vous avez bien regardé Twin Peaks récemment.
On va pouvoir fumer des joints, c'est ça ?
C'est okay. Ok, et donc vous arrivez sans problème au niveau de la base du phare et vous retrouvez au pied de la structure en granit qu'il va falloir visiblement escalader.
Ah oui, quand même.
On a tout ce qu'il faut.
On va le sonder en
moins. Oui, c'est pas si long. Mais alors pour l'escalader, vous allez faire des jets... d'escalader. Mais comme en fait la surface est conçue pour être escaladée, vous avez un bonus de 25. Mais vous devez faire 3 réussites de suite pour arriver au sommet.
En plus de la compétence de base.
Oui, donc vous prenez la corde de base, plus 25. Ce qui rend compte du fait qu'il y a beaucoup de prise sur la structure. Si vous êtes vraiment nul en escalade.
60, plus 25, voilà. Plus 15.
Non, j'ai 90 avec le bonus que tu m'as donné.
Ouais, mais il faut 3 réussites dessus.
1.
Donc toi, tu arrives déjà à 2, escalader le premier traire.
3.
3 réussites ?
Yeah. Ouais. Mais attends, je grimpe d'abord. D'accord ? Ouais. Parce que moi, j'ai un piolet magique.
Ah oui, c'est vrai. Il a un piolet qui lui demande.
Et puis après, avec la corde, je l'attache au piolet, je le descends au suivant, qui utilise le même piolet, qui monte, et ainsi de suite.
D'accord.
Donc t'as. Oui, mais c'est ce qui m'a été donné.
Ah, c'est tout à fait, oui, tout à fait.
Piolet d'escalade, plus 15.
Ah, bon, d'accord.
Parfois, les forces des contrées des rêves donnent des objets adéquats. il y a le personnage de John.
Chacun en fait un jet pour John.
On va voir s'il tombe. Clem, où c'est il a 50%, plus 25, 5, 6, 75%.
Plus 25. Plus 20, plus 15. Plus 35.
Non, il a 5, plus 25. Hein. 50, plus 25, je veux dire. Ça fait 75.
Vous avez dit 20. Et le piolet fait 15, donc ça fait 35.
Attends.
Plus 20.
Il fait 25.
Oui, et moi j'ai un piolet à 15.
Ah oui, chaque fois tu redonnes le piolet. En fait,
bah oui, chaque fois on redescend le piolet au suivant. Bah oui, une fois qu'on arrive en haut, on redescend le piolet.
D'accord, donc ça fait 75, 85, 90%. Ok, oui. Prêt ?
Allez, si.
Moi j'ai fait 9.
Moi j'ai plus besoin de lancer, je suis à 105.
99. Ouais, j'ai réussi. J'ai raté, je veux dire.
Évidemment, il fallait qu'il y en ait un qui tombe.
C'est lui qui tombe.
Et alors, il a droit à un jeu de luck pour ne pas tomber trop fort. Attends, où il est son luck ? Il a combien de luck ? Il a l'air d'avoir 12 en luck pour le moment. Comment ça se fait qu'il a un score aussi mauvais en luck ?
Parce qu'il a utilisé tout son luck pour...
Je vais te faire un échec critique. Ok.
Il a réussi à faire ça avec un score de 9.
Faut arriver à l'heure au parti de jeu de rôle.
Il tombe ?
Est-ce que c'est quelque chose ? Il tombe. Il perd un des 3 de dégâts. Donc il perd un point de vie. Allez. Parce qu'il tombe dans l'eau du lac, hein, c'est pas bien grave.
Oh, elle est gelée. Elle est pétrifiée.
Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que l'eau était pétrifiée. Oui, merci.
Tiens, tu peux prendre tout celui-là, comme ça on peut l'effacer.
Ouais, mais si aussi tu peux les passer. Ah,
bon, bah, ouais.
Bon, allez, je vais pas être vache. Il a juste perdu un point. Il s'était gratiné. Mais...
Ah là là. Non, non.
Un kilomètre plus bas.
Celui que de la flotte. Tu le vois tomber, je prends la flûte.
C'est vrai que ce qui explique, c'est qu'il était déjà pas très en forme, le John. Hein. Il est à 5 points de vie sur 11, donc en dessous de ses moitiés là.
Faut aller le chercher, c'est ça?
Ouais, elle est déjà bien blessée, cette prof Bridget Barrett.
Je suis arrivé en bas.
Ouais, c'est pour ça en fait, il avait. Oui, il avait failli se noyer. Bridget avait failli se noyer. Elle s'était préchauffée plein de dégâts. Mais t'arrives à le refaire remonter. Voilà, c'est la demoiselle du groupe. Mais David aussi, une bonne non.
Et on sait pas, là, on l'a encordé, il a tiré jusqu'en haut.
Il n'est plus brûlé.
Oui, c'est vrai.
Oui, vous l'avez. Vous yo-yo avec elle.
Vous arrivez à la tirer. Mais elle est tellement blessée, elle est très faible avec tous ses.
Mais t'es con! Au bout de la quatrième fois.
Ils vont me vraiment arriver à l'heure.
En fait, pour les auditeurs, on déconne, mais c'est parce que John arrive dans
le pire,
à mon avis.
Elle tourne, se venge. La corde glisse, l'accroche au bout de ses jambes, et elle fait un...
Elle s'écrase sur la table.
Merde. Et puis, tu la racles jusqu'en haut. Ça va?
Bon, on va dire que vous êtes arrivé en haut du granit.
C'est juste un rêve, c'est pas vrai.
Pour vous, non.
Voilà, et vous arrivez donc à l'un devant l'entrée, qui est une porte d'entrée normale dans le phare.
Un tour qui fait combien, je sais pas combien de centaines de mètres de haut, ils ont foutu une porte.
Toute petite tour d'Alice in Wonderland.
Sauf que si c'est tout petit à l'intérieur.
Ouais, donc une fois que vous regardez la tour de là où vous êtes pour l'instant, juste devant la porte, quand vous regardez vers le haut, finalement ça vous donne un peu le vertige inversé, comme ça vous sentez. En plus, la tour est construite dans un granit qui est noir comme la nuit.
De l'obsidienne.
Et voilà. Et vous êtes devant une porte solide, mais vous allez pouvoir rentrer.
Il y a une sonnette ?
Non.
Puis-je utiliser mon nouveau pouvoir savoir à qui pour essayer d'avoir des informations croustillantes et intéressantes sur la chose? Y a-t-il des choses à avoir? Je ne sais pas, moi. Il n'y a pas des inscriptions, des glyphes, des je ne sais quoi?
Non, ici, il n'y a absolument aucune indication de quoi que ce soit. Donc,
okay.
Et juste pour le fun, tu peux dire quelque chose sur la pierre avec la géologie? Sur la pierre qui constitue le phare?
Oui.
Pour une fois, je peux faire un jet sous géologie, c'est bon, je l'ai ici.
D'accord, bah, tu peux faire une check.
Attends, moi, je vais me joindre à toi, parce que si c'est scientifique, c'est...
C'est la seule fois qu'on pourrait utiliser notre géologie.
Attends, j'aime bien la scène, hein, vous êtes devant le phare, et puis les deux scientifiques se disent « Ah ouais, il faut absolument identifier la nature de cette pierre. » Ils
sont gratte, 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 gratte. Puis le gardien, vous faites quoi, là?
On
l'étudie votre phare.
Eh bien, vous déterminez que, effectivement, comme vous en doutiez, c'est bien du granit noir.
Oui, très cher, c'est du granit noir, oui. Probablement du balazin. Du... Des Alpes.
Quoi? Et il est cassé, probablement. Est-ce qu'il brille un petit peu?
Voilà, et puis vous pouvez pénétrer à l'intérieur du phare et vous retrouvez dans un espace où, évidemment, forcément, pour l'instant, il n'y a rien. Mais il y a l'escalier qui monte, hein,
en
colimaçon.
C'est toujours la même chose, quoi.
Il peut pas y avoir un ascenseur de temps en temps.
Ou les escaliers droits, quoi, en zigzag, je sais pas, quelque chose de.
Il y a n'importe quoi. On commence à craindre le colimaçon.
Moi. Ils sont censés faire des trucs un peu spéciaux, quoi. Il y a toujours une escalier en colimaçon.
C'était
le rang
supérieur.
Ouais.
Ils connaissent pas les ascenseurs, les rangs supérieurs.
Non, mais les contrées du rêve sont coincés avec deux cycles de phare, donc ils sont encore au début.
Et eux, ils volent.
Ils ont des millénaires d'avance. En foutre deux, c'est rien du tout.
N'oublie pas qu'ils volent aussi, hein. Ils ont des ailes.
Pourquoi ils ont construit des escaliers en collimation s'ils ont des ailes?
Parce qu'ils ont des serviteurs qui ne volent pas.
Ils aiment vraiment pas.
Non, ils vont faire chier leur monde. Ils veulent juste faire chier leur monde.
Ça vous explique beaucoup de choses.
Bon. Et au centre de la... c'est creux au centre ou bien c'est
très
il y a un plafond?
Non, ce qu'il y a, c'est que évidemment, vous allez monter et puis vous allez atteindre il y a un plafond au-dessus de vous qui est une pièce que vous pouvez atteindre une fois que vous montez, mais vous voyez rien parce que c'est au-dessus pour l'instant.
D'accord.
Ce que vous remarquez, c'est que c'est extrêmement humide ici. L'humidité est à couper au couteau et les escaliers, évidemment, sont très sombres. L'obscurité est vraiment très oppressante.
C'est de la flotte qui est par terre, la même.
Oui, on va dire que c'est extrêmement. C'est surtout de l'humidité dans l'air, en fait.
Ah. Donc, si je joue de la flûte maintenant ici, l'air va se figer.
Et en fait, comme les mammouths. Non, on va pas jouer de la flûte maintenant.
Donc, pour les auditeurs, John est enfin arrivé après moult aventures. Il est des nôtres.
Il a perdu ses semelles comme les autres.
Voilà, et donc on reprend là où on était. Pour John, comme je te dis dans la voiture, ils sont arrivés au château.
Château.
Au phare, je me raccroche aussi. Et ils étaient en train de monter les escaliers qui montaient dans la salle supérieure. Et donc, voilà, vous montez les volets de l'escalier, vous faites le tour des escaliers en cossimaçon, vous arrivez au niveau d'une porte qui donne sur une salle.
Y a-t-il une ouverture pour mettre une clé dans cette porte?
Oh là là, elle a l'air pas difficile à ouvrir.
Je crois qu'il n'y a pas grand monde.
C'est juste pour aller voir derrière la porte, pour voir avant de défoncer ouvrir la porte et pour trouver nez à nez avec un truc horrible.
Je crois qu'ils sont assez capables de mettre des serrures.
Tu peux regarder à travers, il y a certainement une serrure, tu peux regarder à travers.
Et qu'est-ce que je vois de l'autre côté?
Eh bien, tu vois qu'il y a un rideau rouge qui est suspendu devant la porte.
Non,
ça
bouge.
Ça bouge ta vue.
Ça va pas.
C'est le chapitre 18 ans.
Non, tu prends la flûte, tu viens dans la
flûte.
Non, allez, ouvre la porte. Ta-da!
Voilà, donc vous ouvrez la porte et puis il y a un rideau qu'il faut écarter. Et quand vous écartez le rideau, vous vous retrouvez dans une salle visiblement prévue pour se changer, pour un bal. Et il y a une sorte de majordome qui est habillé dans un costume de la Renaissance française qui vous accueille silencieusement. Il vous fait une petite courbette pour vous dire bonjour. Donc juste pour vous donner une idée très générale du type de costume, c'est... de style d'art. Hein,
canard laqué, quoi.
Voilà, un canard laqué, ouais, ce genre de choses-là. Il porte un masque et voilà, il est habillé comme un majordome de la Renaissance française.
Un masque.
Et il vous pointe. Il y a en fait toutes sortes de tringles avec des costumes d'époque, de Renaissance pour vous. Et ça, c'est ce que vous découvrez quand vous entrez la porte et vous entendez effectivement de la musique de valse qui se fait entendre. Vous êtes apparemment invité au bal. Au bal masqué.
On s'est sûrement trompé de porte.
Tout en haut de la tour.
Et alors, il ouvre aussi un petit cabinet comme ça et il dévoile toute une série de masques. Donc, vous avez aussi des masques si vous souhaitez les mettre.
Si je lui montre mon...
Oui,
il
te salue encore plus humblement et il te pointe les masques en disant.
Il n'y a pas un masque jaune.
Vous êtes cordialement invité.
Décris-moi un peu tout le masque qu'il y a. Attends, est-ce que je peux me faire un petit jet sur le mythos et tout pour voir si je ne reconnais pas quelque chose d'intéressant?
Il y a un masque avec des tentacules.
Vert.
Bah, vraiment, le.
Ici. Au cas où.
Ouais. Non, les masques, en fait, c'est vraiment, vous voyez, les masques français avec des plumes et des ornements en passion.
Vénitien.
Ouais, comme ça, voilà, c'est ça que je veux dire.
Avec un petit bâton pour tenir.
Ouais.
Est-ce qu'on voit d'autres mondes déjà depuis ici ou c'est juste la salle de...
C'est juste la salle où on se change, mais il y a en fait d'autres rideaux un peu plus loin et tu te doutes que la salle de bal est derrière parce que c'est là que tu entends la musique de valse qui arrive. Ok. Apparemment, il y a de l'ambiance.
Et il y a que cette pièce-là, il n'y a pas moyen de continuer à monter les escaliers?
Non.
Bon, on n'a pas le choix.
Non, on prend un masque.
On est.
En gros, l'ambiance que ça évoque pour moi dans mon imaginaire, c'est vraiment comme dans Twin Peaks quand vous arrivez dans la loge rouge. C'est la loge rouge.
J'ai plutôt Ace White Shot, là, tu vois. Ah, c'est ça qui baisse partout, les rideaux rouges et tout. Tout de suite, c'est moi.
Ouais, mais on est PG-12, on peut pas avoir des scènes de baisse partout.
Bon, peur des gens qui se font extropier. Vous ne faites pas les araignées, mais par ça.
Non, non, c'est que sur les scénarios de jeu de rôle, c'est Aristote. C'est vrai que la musique de Eyes Wide Shut, là, dont. C'était une musique de fou, là. J'en ai fait.
Bah, je crois qu'on a pas le choix, on va devoir se masquer et continuer. Hein.
Vous changez. Alors, en tout cas, le majordome, toujours tout à fait silencieusement, vous indique qu'il y a des cabines pour se changer dans l'intimité.
Okay. Ça veut dire qu'on garde quand même notre équipement ou...
Ouais. 16e siècle.
mais attends, si les vêtements sont un peu amples, tu sais, moi j'ai une
suffisamment. C'est une keramique, j'ai une femme. C'est ce que c'est.
Ouais, mais attends, moi je suis une femme, j'ai des robes, tu vois, genre un peu amples ouais, d'époque.
Ouais. Ah oui. Ouais.
La petite carabine planquée de longue. Ouais.
Avec des fagnons de baleine de terre.
Bon, ce qu'on peut faire, c'est imaginer une scie à métaux, couper le bout du canon, hein, pour avoir un truc raccourci, et couper la crosse aussi.
Non, mais là j'aimerais bien avoir la tête du majordome. Je vais me changer. Oui,
mais en tout cas,
pirate des Caraïbes.
Quelle que soit votre option, vous changez ou pas vous changez, vous remarquez que le majordome est très ouvert, il n'a pas l'air de vous donner l'impression de vous obliger à faire quoi que ce soit. Si vous vous dirigez vers la salle de bal, même sans vous changer, il ne réagit pas. Enfin, il vous fait des courbettes. Et...
Je voudrais voir les masques en fait. Ils sont, c'est des bêtes masques.
Oui, c'est vraiment des masques de fête. De toute façon, non, mais à vrai dire, dans les illustrations, ils les présentent. Moi, j'imaginais plutôt ça comme des masques français, mais enfin, si tu vois sur les illustrations, ils ont des masques de ce type-là, quoi.
C'est de la comédie de l'art.
Voilà. Bah, au moins pour ce qu'ils ont fait, tu vois. Mais si on rentre dans la salle, qu'il y a plein de gens qui font des trucs, on sera peut-être plus discret pendant au moins genre quelques minutes. Et si on débarque comme des poucs avec nos fringues. Ou alors on s'en donne.
On est dans un univers magique, tu crois sérieusement que ça change quoi que ce soit si on est habillé comme on est maintenant?
Oui, c'est plus fun.
Je me change.
Je me change,
mais je voudrais un habit de marquis.
Ok.
Un truc haut de gamme.
Moi, un petit
corset. Un petit corset bien moulant.
Non, et un peu strict, sévère, mais élégant.
Et Timothy Gartier, qu'est-ce que tu prends?
Je vais prendre un costume de colonel, ça ira bien. Je préfère les costumes militaires.
Je vois vraiment les trois personnes qui rentrent dans la salle avec
la... Ils ont quand même leur sac à dos.
Ouais. Et justement, avec le fusil, ça passera
mieux. Les guns qui traînent dans le...
Donc, par contre, est-ce qu'il y a moyen de planquer le piolet de grimpe?
Je suis sûr que ça
sera... d'escalade ou c'est... Non, comme une canne, tu vois.
Ben voilà.
Il faut une canne si t'es habillé en...
Ouais, mais un piolet, ça...
Bah t'as qu'à dire que t'es le marquis du piolet, ça y va. Ouais. Ça fait partie de tes armoiries.
Non. On laissera là, on s'en fout.
Bah non, tu le prends...
Non, parce que j'ai toujours la longue vue avec moi.
Bah oui, c'est pas grave. T'as qu'à le planquer sous sa robe.
Il y a plein de places.
Tiens, c'est pas... À cette époque-là, ils avaient même des bassins sous les robes pour qu'elles puissent se soulager. Hein. Donc, t'as qu'à glisser une pionnette dedans et puis c'est bon.
Je vais garder la longue vue sur moi. C'est un truc télescopique.
Oui, c'est télescopique.
Alors, je garde la longue vue sur moi.
Et ton piolet est magique, le pas télescopique aussi.
Non, le piolet, je le laisse là, il n'y a pas besoin.
Ok.
Enfin, sauf si. Est-ce que c'est tes costumes avec canne?
Ouais, ça peut être avec canne.
Ça peut être avec canne, si tu le dis.
Et c'est un petit piolet comme ça, je suppose, c'est pas un...
C'est un petit piolet d'escalade, mais c'est plutôt... Ouais, moi, j'imagine être petit, ouais.
Mais ça passe franchement sous la robe. On y verra que du feu.
Mmh. Ou tu le mets à ta ceinture comme ça. Tu vois, ça, les gens vont pas commencer à...
Putain, costume de marquis, de duc ou je sais pas quoi.
Ça passera pour une sorte de canne.
Attends, ils ont des épées,
oui, costumes. Ils ont des épées.
Certains doivent avoir des épées, ouais.
Bah voilà.
Les nobles portaient toujours l'épée.
Épée, piolet... En avant.
Allez, c'est parti. Bon, maintenant que c'est réglé...
Et quand vous vous préparez, vous êtes devant le rideau et puis le majordome ouvre le rideau et vous découvrez évidemment la salle avec l'air est rempli d'une musique qui vous hante. Hein. La mélodie de la musique vous rappelle les airs populaires de valse de l'aristocratie française. Et alors devant vous, évidemment, se trouve une immense salle de danse remplie de danseurs qui tourbillonnent sur l'air de danse en silence. Bienvenue au bal masqué.
Oui, oui.
Je crois que l'écrit, oui, c'est un auteur américain, il connaît pas le bal masqué. Oui.
Là, il connaîtra.
Ils vont pas l'écouter en français aussi.
Non.
Non, par contre, dans cette capharnaüm de personnages, est-ce qu'il y en a un qui est proéminent?
Non.
Les gens qui tournent autour, qui font des courbettes, qui se déplacent dans la salle et qui semblent drainer l'attention des gens.
Non, alors que vous avancez un peu dans la salle et vraiment les gens ont l'air de danser, mais un peu comme des automates, ils ne réagissent pas à votre présence. Et,
c'est les automates.
Pour l'instant, il n'y a absolument personne qui sort du lot. Ils sont vraiment...
Oui, comme dans le manoir hanté de Disney, quoi.
Voilà, en mode automatique.
Comme Doctor Who, avec les automates.
J'ai dû le voir.
Au niveau de la pièce, est-ce qu'il y a des fenêtres? Est-ce qu'il y a un escalier qui monte sur une pièce qui est située au-dessus? Est-ce qu'il y a...
Dans cette pièce-ci, il n'y a absolument aucune porte. Mais évidemment, ton personnage se rend bien compte aussi que la géographie des lieux est très aléatoire, parce que dans la tour, il n'y a pas la place pour une telle salle de bal, quoi. Telle que vue de l'extérieur.
Il y a des miroirs?
Il doit y avoir des miroirs sur
les
murs.
Les gens se reflètent dans les miroirs normalement.
Oui, oui, ils se reflètent.
Mais c'est une salle de bal, quoi. C'est vraiment une salle de bal.
C'est vraiment une salle de bal.
Et les musiciens dans un coin? D'où vient la musique?
Elle vient de partout, mais il n'y a pas de musiciens.
Des alcôves?
Une Dolby.
Pas d'alcôve.
Il y a un buffet?
Voilà la question qu'il fallait.
La question. Ouais. Il doit y avoir un serveur qui vient avec un plateau. C'est... Une flûte de champagne?
Oui.
Non, mais ils ne vous parlent pas de toute façon, ils sont tous silencieux.
Champagne.
Eh bien, tu prends un verre de champagne.
Okay. Non, mais il n'y a pas un endroit d'intérêt, à part c'est une grande salle circulaire.
Non, non, il n'y a pas d'endroit d'intérêt. Par contre...
De quelle forme la salle circulaire, carré?
Elle est rectangulaire.
Il n'y a pas un emblème quelque part? Un blason, quelque chose?
Mais après que vous ayez passé quelques minutes à fouiller la salle, visiblement, à chercher quelque chose et que... Vous passez, vous faufilez entre les gens en train de danser, en essayant de ne pas les perturber. Et au bout de quelques minutes, vous voyez que le rideau de la salle où on se change s'ouvre de nouveau. Et cette fois-ci, la personne qui rentre est le prêtre. Vous l'avez déjà rencontré, hein, c'est le prêtre qui ne peut pas être décrit.
La grenouille ?
Oui. Tu lui diras comme ça.
C'est notre pote.
Ah oui, la bête de la lune.
La bête
ça.
De la lune, oui.
Il n'y en a pas un qui lui manque, qui danse sans le porte au flambeau.
Non. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines. Donc, ils portent absolument tous des masques. Hein, ouais. Et mais tu vois qu'il y a certaines. Ton regard est attiré par certaines femmes. Aux formes voluptueuses, hein. Il y a quand même quelques beaux spécimens dans la salle. Comme tu n'es pas.
Il pense que déjà. La date de péremption est passée pour
les. Ouais, tu me regardes.
Qu'est-ce que le maître de jeu nous dit là?
Non, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance un peu Eyes Wide Shut, c'est ça que je voulais dire. Voilà.
Il y en a quelques-unes qui sont à moitié à poil.
Tu peux l'interpréter comme ça dans ton imaginaire, c'était juste.
Eyes Wide Shut, j'ai pas aimé celui-là. Je trouvais qu'il était surfait.
C'est Tom Cruise. C'est Tom Cruise.
Mal filmé. Pas assez trash.
Ok, donc. Et alors. Ok, juste.
On peut pas être débat.
On se met à danser peut-être.
Voilà, oui, donc au moment où il arrive, la musique s'arrête évidemment, et un des hommes de l'assemblée s'avance et fait une annonce comme quoi. Enfin, c'est le héros, hein, le grand prêtre, le haut prêtre qui ne peut pas être décrit, rentre dans la salle. Tous les danseurs s'arrêtent et se mettent à s'agenouiller pour le saluer alors qu'il rentre. Hein. Et.
Mm-hmm. Oh, c'est notre pote, on n'a pas besoin de s'agenouiller.
La dernière fois, vous étiez agenouillés.
Ok, on s'agenouille.
Ils vont mieux.
Et le prêtre commence à s'avancer, traverser la salle. Et de temps en temps, alors qu'il est en train de traverser la salle, vous pouvez apercevoir dans ses mouvements. C'est que vous vous souvenez, hein, c'est comme un. C'est un. Comment dire. Ah, le mot m'échappe maintenant, un glamour, hein, donc de temps en temps, vous entreapercevez derrière le glamour son apparence normale. Il a l'air de s'avancer vers le fond de la selle et une fois qu'il y arrive, il y a une 13-14 des danseurs qui sortent du groupe de danse et qui se foncent vers le fond de la selle et commencent à se contorsionner et leur corps commence à s'emboîter pour former un trône comme vous aviez déjà vu, un trône composé de corps humains. Et vous entendez les craquements des œufs alors qu'ils se mettent en place.
Est-ce que c'est Peggy 12?
Et vous pouvez faire un jet de santé mentale.
Sale. Ah ouais.
Qu'est-ce qui se passe si on rate?
Tout va bien.
Ça va, vous voyez les corps en train de se contorsionner, de se craquer, de s'inverser pour constituer un trône pour le grand prêtre qui ne peut pas être nommé. Et ceux qui ratent perdent un point de santé mentale, c'est pas trop. Après tout ce que vous avez vu.
Oh, je n'ai plus beaucoup de santé mentale.
Ah ouais, t'as pas l'air d'en avoir beaucoup. Hein.
Avec 33, oula. Ok. Ça va mal. C'est raté.
T'as perdu un point seulement juste pour moi. Pour l'instant.
Oh, finalement, c'est juste de la menuiserie, mais un peu expérimentale.
Ouais, c'est ça. Ça va être de menuiserie, de biologie.
Et une fois qu'il est installé sur son trône, le grand prêtre s'adresse à l'assemblée. Et il vous dit donc, soyez joyeux, réjouissez-vous, car ce soir nous célébrons l'Armageddon. Le cadeau d'Azathoth arrive ce soir même, et vous avez tous été choisis. Vous avez choisi pour être l'élite des quelques rares qui pourront renaître comme esclaves sur la terrible Carcosa. Venez, choisissez un partenaire, et mourrez dignement dans la joie et dans la danse.
Je savais bien que c'était Azathoth qui était dans le coup.
Et puis le prêtre se penche, il met un coude sur son genou et puis il vous regarde de vous spécialement. Et il dit, si vous décidez de danser une danse différente, une danse de futilité et douleur, alors je vais vous autoriser à rechercher celui pour lequel vous avez voyagé si loin. Et si c'est cela votre choix, à ce moment-là, vous abandonnez votre vie éternelle sur Carcosa.
C'est dommage, c'est difficile.
Et à ce moment-là, il y a le majordome et tire un rideau et il y a une porte qui apparaît. Vous étiez sûr qu'il n'y avait pas de porte là avant, mais maintenant il y a une porte.
On se pose plus de questions.
La personne qui veut devenir esclave éternellement sur Carcosa?
Non, j'ai juste d'autres choix de carrière.
Personne qui aime le franc en jeu.
De très loin. Bon, ben, ravi de vous avoir connu. Au revoir et merci. Hein. On prend la porte.
Très bien. Ok. Vous rentrez alors dans le long couloir, vous passez la porte. Personne ne vous empêche de passer la porte et derrière vous, évidemment, le bal masqué reprend, hein, tout le monde se remet à danser. Tous les esclaves de Carcosa se remettent à danser.
Grand bien leur face.
Vous franchissez la porte et devant vous s'étend un très long couloir, extrêmement long, avec en fait tellement long que vous n'en voyez pas le bout. Et tous les quelques mètres, il y a des portes à droite et à gauche en bois. Et évidemment, ce couloir ne pourrait pas être là. Hein. C'est un couloir à la Matrix, comme ça.
Oui, c'est ça. Ça sort du bureau de l'architecte.
Ouais. Un grand prêtre, hein, quand il ne peut pas être décrit, c'est un peu l'architecte, en fait.
Mais il ne connaît pas les ascenseurs, qu'est-ce que tu veux?
Ouais, c'est
un grand prêtre, il est dans un grand temple.
Si c'est un couloir courbe... Mais toutes les choses ont été déformées, t'as l'impression qu'il est vraiment... En fait, il est court.
J'ai l'impression que celui-là, il est vraiment rectiligne.
Bon, hop, il y a des marquages sur la porte.
Absolument rien.
Une ouverture pour une clé.
Une poignée, au moins.
Il y a une poignée.
Il y a une poignée. Pardon.
Bon, je propose qu'on fasse toc-toc à toutes les portes, et puis on voit s'il y en a une qui s'ouvre.
Mais tu ouvres la première porte, tu vas dans l'espace sidéral, tu fermes la porte.
C'est la tour, il y a plein de lave qui sort.
Non, c'est la méthode.
C'est un couloir
avec des portes.
de couleur blanche, avec des portes de couleur grise, avec un sol de couleur noire, avec des lumières qui viennent de on ne sait pas où, c'est ça ?
Je pensais plutôt que c'était un couloir d'allure plus médiévale que ça, parce que vous êtes quand même dans une tour un peu médiévale. Donc,
Mais pourquoi médiéval ?
Tu peux l'imaginer à la matrice si tu veux.
Non, mais pas nécessairement à la matrice, mais bon. Il n'y a aucune indication. Donc on va, bon, en fait, je propose qu'on ouvre la 69e porte.
Ah, mais l'idée de toquer, ce n'est pas forcément mauvais. Ça coûte rien.
Attends, je traduis. Entrée.
En fait, les portes, c'est des rencontres aléatoires. Et donc, c'est très, une bonne idée de lancer les dés, donc t'as fait 69, c'est ça?
Ou bien j'ai une autre plan.
Mais il faut aussi savoir qui ouvre la porte. Parce que
j'ai un autre plan. Moi, ce qu'on peut faire, on cavale, et à chaque porte qu'on passe, on l'ouvre, et on continue à courir, et on les ouvre bien après l'autre, comme ça. Et quand on arrive à 100, on se retourne, en fait.
Okay. Ouais, c'est comme dans la cabine dans les bois, cabine in the woods, il y a des monstres dans chaque porte, et puis tu les dés, ça va dans ça. Il va falloir courir très très vite, alors.
C'est pas un problème, ça. On peut essayer ça pour une fois, pour s'amuser. Là, je commence à avoir marre à ces couillonnades, parce qu'il n'y a rien d'indication, rien que dalle.
Il n'y a pas de Wexit quelque part?
Non.
On peut rêver à pas de Wexit quelque part?
Oui, mais ça ne te demandera pas vraiment la sortie.
J'ai écrit Exit.
Bon, allez, qui ouvre la porte? Il faut savoir qui ouvre la porte, et puis la personne va lancer les dés pour savoir ce qu'il y a derrière. Un dés.
Bon, il faut savoir, ça va certainement me faire perdre la sortie.
J'ouvre la première porte.
Ça m'a l'air d'être le
plus. Un dés.
56.
Tu ouvres la porte. Passe et.
C'était pas la peine de le préciser, tous les flingues sont déjà armés, tu sais.
Et donc, quand tu ouvres la porte,
on tire.
Tu as une odeur vraiment répugnante de
putréfaction. Referme la porte, referme.
Non, pour l'instant, il découvre la scène.
Oui, hein, ben,
c'est peut-être juste ouvert sur un frigo d'étudiante avec des trucs un peu. Genre,
Rose Brown s'est extrêmement choqué par la scène que j'essaie de vous décrire.
Sûrement.
Si toi t'es choqué, moi je ne regarde pas. Je regarde pas la porte. Je regarde le couloir.
Il y a que l'odeur déjà, ça suffit. Ouais.
Allez, c'est quoi?
C'est le garde-manger des goules.
C'est une. Attendez, ça c'est la pièce est construite aussi en pierre noire. Et effectivement, c'est une sorte de cellule. Hein, mm-hmm. Et vous apercevez, donc il y a une fenêtre avec des barreaux. Et derrière cette fenêtre, vous apercevez un ciel avec plusieurs lunes qui éclairent de lumière lunaire la monstruosité qui est sur le sol. Et en fait, la monstruosité qui est sur le sol, elle est enchaînée. Et c'est une créature, en fait, avec un corps en forme de. Comme un baril. Et des multiples tentacules au niveau des pieds et des bras. Et une tête en forme d'étoile de mer. Et
tiens,
la raison pour laquelle.
Ça rappelle des souvenirs, ça.
Laquelle, malheureusement, elle s'est extrêmement choquée. C'est qu'il a déjà vu.
J'ai déjà vu. Revenge.
Et avec
je suis pas choqué. Je l'ai déjà vu. Passe-moi le flingue. Tu te souviens de moi? Non. Eh ben, je vais la crosser jusqu'à ce qu'elle. Non. Là, c'est.
Attendez, parce que.
En caractère.
La créature est quand même a été juste pour finir ma description. Effectivement, la créature, sa tête en forme d'étoile de mer a séché et vous voyez qu'en fait qu'elle est blessée, mais elle vous semble être son corps effectivement a de nombreuses blessures et en fait vous êtes même pas sûr qu'elle est encore vivante. Mais malgré tout, vous devez quand même tous me faire un jet de santé mentale.
Après ce qu'on a vu,
j'ai même pas regardé.
On a déjà vu plein de
gens. Toi, t'en as pas vu plein.
Ah si, j'étais encore là quand
je regardais pas.
T'as ton personnage.
Non, si, j'ai vu les trucs qu'on avait trouvés dans les fouilles, tout au début de l'histoire.
Non, ton personnage a brûlé bien avant ça. Hein. Ton personnage n'est même pas allé en Antarctique.
Les espèces de plantes fossiles, soi-disant, qu'on avait trouvées.
Toi, t'as brûlé avant que t'as brûlé.
Mais non, c'était pas sur le continent de glace, c'était avant ça, ce qui a lancé.
Ah, ça, oui, non, mais oui, mais c'était pas.
C'est
vraiment,
jamais qu'une plante.
Ah, c'est. Ça, c'est la rationalisation, si vous réussissez, vous savez, moi, j'ai de santé mentale.
Je refuse, j'en ai déjà vu plein de ces conneries, je les ai sentis, je les ai bouffés.
C'est bon.
Je suis revenu.
Comme je disais, j'ai rationalisé. Ce n'est qu'une plante.
Moros, je l'accorde, il n'a pas besoin de jet de santé.
À la limite, c'est tu bon. Sais quoi, j'ai presque envie de jouer pitié de cette pauvre bête et dire essaie de voir si elle est encore vivante ou pas. Alors je dois pouvoir écrire ça va pas pour l'interrogation en leur langage. Juste pour me moquer d'elle.
En fait, il a pas besoin de jet de santé mentale parce qu'il est déjà complètement fou.
On va refermer la porte avec son copain, tu sais, bon.
Il sera de se mettre à écrire des choses en créature très ancienne sur le mur. Je sais pas, parce que honnêtement, j'attendais les jets de santé mentale.
Moi, c'est réussi.
C'est réussi.
Okay, donc,
ça vous effraie pas?
Non, vous perdez rien. Et qu'est-ce que j'allais dire?
J'avais qu'un ananas avec une étoile de mer sur la tête. Hein.
Un être vivant.
Oui, l'ananas, c'est un être vivant.
Ouais.
Et une étoile de mer aussi.
Sauf qu'un ananas, on le bouffe.
Bah, bon appétit, ça a l'air un peu faisandé quand même.
Ouais. Non, par contre, est-ce qu'il y a pas par hasard ces merveilleux petits bocals translucides avec une petite flamèche dedans? Non? Merde.
Et maintenant, je veux bien savoir ce que vous faites. Alors, si vous avez fait, si vous perdez aucune point de santé mentale, parce que vous, pour eux deux, ils pensent que c'est une plante.
Et enchaînée.
Une plante enchaînée sur le sol, oui.
Très moche cette plante. Hein.
C'est de l'art contemporain. C'est une exposition.
On va les faire en calme.
Dans la pièce.
Il n'y a rien d'autre.
Y'a que ça.
Next.
Ok.
Mais vous voulez faire quelque chose à cette place?
Non, tu peux toujours
commencer. Non, mais il n'y a pas moyen de faire une hypothèse de la raison pour laquelle ça se trouve là ou quoi?
Parce qu'ils sont ennemis.
Ok. Bon. Hypothèse acceptée. La partie 20.
Non, parce que si je me souviens bien, ça c'est Morehouse qui dit, il y avait plusieurs races qui étaient en Antarctique, dans la ville. Et de ce qu'on a compris, ils ne s'entendaient pas spécialement bien. Mmh. Ils étaient là diplomatiquement, mais à un moment donné, ils se sont tapés dessus. Et c'est peut-être une victime de ce reste, de cette guerre entre eux. Alors, à part s'il y a des bâtons avec un... Tu vois ce
que je veux dire? Oui, bien sûr, les armes.
Il n'y a pas les bâtons à cheveux.
Non. Non, juste pour juste d'un point de vue méta, pas du tout dans le scénario, parce que la raison que Morehouse a donnée dans le scénario est tout à fait légitime. Quoi. D'un point de vue méta, c'est vrai que c'est parce que dans les montagnes hallucinées, à certains moments, quand les deux personnages, Dyer et l'autre, arrivent dans les montagnes, ils ont d'ailleurs dit à l'impression qu'en fait, au-delà de la cité des choses très anciennes, se trouve le plateau de Lang. Mmh. Donc en fait, le plateau de Lang, il y a différentes géographies, localisations géographiques dans l'Appel de Cthulhu ou dans l'œuvre de Lovecraft. Mmh. Il y a trois localisations, au Tibet physiquement, réellement, dans les contrées des rêves. Lovecraft parle du plateau de Lang exactement comme on est en train de le jouer. Mais dans par-delà, il dit, t'as l'impression que pour Lovecraft, à un moment donné, c'est pas très clair, mais que le plateau de Lang est derrière la cité des choses très anciennes en Antarctique. Quoi. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça. C'est méta, c'est thématique, parce qu'il y a une connexion entre le plateau de Lang et les créatures. En fait, c'est comme s'ils étaient là physiquement, juste à côté de la cité des choses très anciennes, ils l'ont capturé, ils l'ont mis dans la cellule, un truc comme ça. C'est l'univers délirant des contrées des rêves.
Bon, et finalement, elle est morte ou pas, la bête?
Moi, je crois que vous avez refermé la porte. Bah, Morehouse m'a dit qu'il a refermé la porte, donc...
On a arrosé un peu, et puis...
Arrosé un peu, j'ai poussé dessus.
Bah, ça dépend comment vous percevez la bâtarde d'Astur. Est-ce que c'est un allié ou un ennemi, mais... ou entre les deux, mais...
C'est toujours lui qui s'est montré.
Qui ouvre la porte suivante? Quel jet me fait-il?
Je veux bien m'y coller pour la suivante. Et...
Bon, alors, je précise que... Pendant qu'il ouvre la porte, je me tiens avec ma Remington, mais dans le couloir, et je ne regarde pas ce qu'il y a dans le truc, et je lui demande, est-ce que je regarde pas?
45.
Ok, tu peux relancer alors.
Pas de chance, c'est Guido.
Ou alors il va nous dire genre, ouais, tu peux regarder, vas-y, regarde.
83.
Ah, ça me paraît mieux ça. Allez. Donc tu ouvres la porte et tu es agréablement surpris par ce que tu découvres. C'était la bonne porte, non, ça dépend, tout dépend. Donc les murs sont recouverts de rideaux en blue velvet, hein, je ne sais même pas comment on traduit ça, mais enfin, velours bleu, voilà, similaire à ceux de la salle de danse. Et il y a en fait dans la pièce un lit extrêmement...
Ça sent le piège à con.
Avec quatre des femmes que tu avais trouvées particulièrement attractives. Ou bien comme dans les crimes de la nuit, tu te fais aspirer. Le pauvre Johnny Depp qui est resté. Enfin, t'as quatre des femmes qui sont, que tu avais repérées sur la piste de danse qui sont maintenant là. Et elles portent juste leur masque. Et elles sont étendues.
L'engrosement.
Non, attends,
elle doit dire,
Moi, ce que ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'elles étaient derrière nous, qu'on est rentrés dans le couloir, elles ne nous ont pas dépassé, ils ouvrent la porte et elles sont là à poil. Donc,
et tu ne vois pas les tentacules sous le lit, et puis tu te fais choper, et là.
Elles sont étendues langoureusement, et quand elles te voient, évidemment, elles tendent les mains vers toi en disant, en t'invitant à venir. Oui, mais c'est magique, hein. Tu dois faire un jet de résistance.
Oui, mais non, c'est pas grave, je referme la porte, tu pédais, c'est pas de chance. Ça marche pas.
C'est quoi ton score de pain? T'as combien en pouvoir?
Pain, il est où celui-là? 80.
Ouais, ça fait 16 à la.
Tu prépares un cocktail Molotov?
C'est une bonne idée, fais dans ça.
Ouais, tu as 30% de chance de résister à leur pouvoir d'attraction.
C'est tout.
Et tu sais, enfin bon...
Ils sont quatre, hein.
C'est un peu comme les quatre copines de Dracula. Si tu venais un peu passer du temps avec nous, t'as beaucoup voyagé. Il est temps que tu viennes te reposer un peu.
Non.
Mais elles parlent pas, en fait, mais... Ouais. Profites-en.
Elles savent pas parler parce qu'elles ont les tentacules derrière leur masque.
30%, hein.
Ouais.
Et les autres...
Ouh. 0,2.
Waouh.
J'ai dit que j'étais pédé, ça passe pas du tout.
Tu fais deux pas au lit, tu prends ta paye. Biatch.
Non, tu viens, tu fais juste. Moche, trop gros ça.
Pire que ça. Non.
Tourne-toi un petit peu.
Non. Puis il y a un mec qui passe et il fait.
Le porteur, celui qui a été marqué par le symbole en jaune, a aussi fait un jet de résistance. T'as combien en power?
Beaucoup.
Bah, donne-moi le score.
85.
Le plus plié de la case inférieure droite.
17. Mm-hmm. J'ai raté. Évidemment que je vais rater.
Ah, sinon, il n'y a pas de fun. Hein. Alors là, toi, t'as 40% de résistance à l'attraction.
Et j'ai pas droit à bonus quelconque pour un jet
de résistance. Viens voir, toi, espèce de loup.
Mais vous êtes en reine aujourd'hui. Ah, 15, waouh.
Donc, je rentre, je prends ma piolet et...
Et moi, je prends un fusil à pompe.
C'est la méthode de vie.
Coucher la vieille,
c'est la meilleure.
Boom. Et into the king.
Into the king, baby. Into the king, groovy.
Avec la Remington en plus, on est là.
Elle entend le gars qui rentre, entend. Boom. Et on dit, le mec sort, et le passe à tête, et ils sont violents aujourd'hui.
Mais celle-là, c'était vraiment des meufs. Ouais.
Attends, c'est je m'entraîne dans le couloir. T'es malade, c'était malade.
Je peux déjà refermer la porte. Hein.
Bah oui, en fait, quand vous avez résisté au pouvoir d'attraction, vous pouvez juste refermer la porte si vous le souhaitez.
Oui, c'est plus drôle de faire un petit piolet, flinguer une bonne femme et dire un peu plus, je dois la mettre, d'accord. Et encore, on n'a plus que beaucoup, je crois, beaucoup de
monde à mon avis. Donc là, le stress, ça défoule un peu.
On gagne des points de santé mentale si on fait un truc comme ça.
Non, on a tellement peu.
Non, bah attends, sérieux, j'ai pas trop un bonus pour avoir réussi un jeu pareil, c'est génial quoi. 0,2, ouais. Ça arrive une fois dans une vie.
Non, mais. Maintenant, les créatures du mythe, quand elles ont de l'eau derrière les portes, elles ont entendu pan, un coup de piolet dans un crâne, un coup de flingue. Ils ont refermé la porte sur le pauvre en train d'agoniser. Toutes les bestioles du mythe sont en train de. Mais ce sont des malades!
Je suis pas sûr.
Ils
sont en train d'apprécier le style.
T'as tellement bien réussi, je te donne un des 4 points de santé mentale en plus.
Oh, merci.
Allez, 4. Vers 4 points de santé mentale. Parce que t'as tellement bien résisté, tu sens que ta volonté est forte là, t'es capable.
Maintenant, c'est la vue des nichons, c'est la vie, c'est la vie de bonne humeur.
C'est une autre interprétation. Ouais. Bon.
On a vu des trucs dégueulasses, c'est clair, mais faut trouver des compensations dans tout.
Bon, donc vous fermez la porte.
Bah écoute, avec le physique aussi, je tire un bon coup et c'est réglé.
C'est John qui ouvre la porte suivante.
Exactement.
Bon, ben voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la prochaine?
Oui, je vais tomber sur plein de mecs super musclés et tout. Alors. Bon. Allez, bah ouais, j'ouvre. Là, avec la Remington. Côté, quoi. Attends, c'est combien?
Un des 100.
Attends. Un des 100?
Oui, bah tu lances un des 100.
Tu me dis combien?
94.
94.
Ça c'est mauvais ça, je vais
Tu ouvres la porte et tu découvres une autre cellule donjon, donc similaire à celle que tu as, où il y avait la chose très ancienne à l'intérieur. Elle est très sombre et sans fenêtre cette fois-ci. mais il y a la fenêtre du couloir qui éclaire un peu la pièce jusqu'au mur opposé. Et la lumière éclaire un homme qui est enchaîné contre le mur. En fait, il n'est même pas enchaîné, il est effondré contre le mur. Mais ce que tu peux voir, c'est qu'il a en fait des sortes d'énormes... De grosses étoiles de mer qui sont posées sur son visage et ses différentes parties du corps. Il y en a 5 qui sont vraiment agglutinées contre lui, et au point que tu as du mal à identifier, enfin même à voir le corps humain en dessous, mais elles sont en train de...
Attends, il y a des étoiles de mer dessus ou des marques d'étoiles de mer?
Non, sur lui il y a des...
Ouais, c'est de la haute couture, hein, moi j'y connais pas grand-chose, mais bon, chacun ses goûts.
Maintenant que tu regardes, effectivement, il lui manque une pantoufle, oui.
Voilà notre cible.
Ouais, on est là.
Il est en pyjama, effectivement.
Je m'approche et j'essaie de l'appeler.
Regarde le plafond.
Le
plafond.
Mais on n'a pas de lumière.
Si on a des lampes torches.
Si on a des lampes torches dans les bocaux à la cornichon, rappelle-toi.
Il s'est planqué où? Sous ma robe?
Exactement.
J'ai une robe que...
J'ai juste la glimille avec le Hamilton.
En fait, c'est pour ça que t'as pas dansé.
C'est ça. Non,
tu t'es planqué dans ta robe.
T'as fait l'inventaire sur ta robe, hein?
Deux robes, deux bocaux de cornichon ici, et le Hamilton sur la jambe.
Bon, bah du coup, j'éclaire le reste de la pièce.
Oui, tu jettes un coup d'œil, mais il n'y a rien dans la pièce. T'entends à peine l'être humain en train de gémir.
Ça va, monsieur?
C'est vrai que là, ces sortes de grosses étoiles de mer, enfin, c'est un mix entre des sangsues et des étoiles de mer, elles sont en train d'aspirer sa force vitale ou autre chose. Ouais.
Bah, on devrait choper du sel ou un truc du genre. Allez, qu'on retourne. On retourne. Aller au majordome. Hey, excusez-nous, on vient pas pour faire ça, mais juste un petit peu de sel, si vous en
voulez. On essaierait pas d'enlever ces étoiles de mer?
Je crois qu'on est sur le fait, moi.
Avec quoi?
C'est peut-être dangereux, non? Pour sa santé ou quoi?
Voilà, ça s'appelle la sienne, c'est pas grave, c'est pour la vôtre que je m'inquiète.
Les étoiles de mer, c'est pas très rapide, hein.
On sait pas comment ça se comporte, ces trucs-là. Oui. C'est certainement pas des vraies étoiles de mer.
Mais non, je sais que c'est pas des vraies étoiles de mer.
C'est pas... Non, mais je veux dire que c'est certainement pas des bestioles aquatiques.
Et des...
limite, si on tire un coup de feu, le canon est chauffé et on peut essayer de griller le truc et de...
Non, passe-moi une balle. Passe-moi une balle.
Non, mais juste pour répondre à la question non posée, c'est que si vous examinez, en fait, vous voyez que effectivement, ces créatures ont des... n'ont pas l'air très réactives parce qu'elles sont juste en train de pulser qu'elles aspirent. Mais elles ont visiblement des appendices qui s'ancrent dans le corps du gars. Et si vous devez le retirer, votre problème le plus immédiat, c'est qu'en fait, il faut réussir un jet de premier soin pour arriver à le retirer sans qu'il perde des dégâts quand vous arrachez le bazar. S'ils arrachent juste le bazar comme ça, il y a la moitié de sa chair qui va partir avec. Quoi.
Et si on faisait de la poudre d'une des cartouches là, sur la bestiole et elle aurait cramé, est-ce que la douleur la ferait détacher? Tu peux essayer?
Ça me paraît une idée, hein.
Passe-moi une cartouche.
Ça roule.
Si on combine ça avec First Aid, il y a moyen de...
Bah là, il essaie de faire que la créature s'en aille spontanément, si je comprends bien.
Essaye avec ça, ça va pas, j'essaierai avec First Aid.
Écoute, tu établis tu fais ta petite procédure, tu essaies de mettre le feu, tu peux me faire un jet sous le lock pour voir comment la créature réagit.
07.
Oui, alors effectivement, elle n'aime pas du tout le traitement que tu fais.
Elle part.
Elle tombe sur le côté légèrement desséché comme ça. Tu l'écrases sauvagement.
Plus que 5.
Ok. Bah écoute, comme tu as découvert que la procédure fonctionnait, tu reproduis la procédure et tu arrives à faire partir toutes les étoiles de mer.
Science, bitch.
On peut peut-être essayer de le soigner du coup maintenant.
Voilà.
Oui, donc évidemment, une fois que vous avez enlevé l'étoile de mer qui recouvrait son visage, vous pouvez reconnaître les photos que vous avez vues du docteur Jasiak, hein, qui évidemment, vous en doutez, le directeur du centre du sommeil, qui s'est retrouvé là, voilà. Mais
il est mal.
où il est, évidemment, il est très 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 faible. Mais maintenant que vous avez enlevé les créatures, au bout de quelques minutes, il reprend conscience, mais il est très très faible. Et il fait « Où suis-je? Qu'est-ce qui m'est arrivé ?»
La même chose qui est arrivée à tes patients, espèce de bourreau, espèce de cinglé.
Vous avez juste un mauvais rêve. Tout va bien.
C'est le cauchemar qui continue, mais...
Vous êtes juste fini. Vous êtes juste pas réveillé, c'est tout. Mais...
Voilà.
Mais c'est juste un mauvais rêve.
Ouais, j'étais à mon laboratoire, et puis cette chose est venue, elle m'a emmené dans les airs, et on a passé dans l'eau, et c'était...
Quelle chose, elle ressemblait à quoi? Un ananas avec une étoile de mer et des ailes dans le dos?
Et maintenant vous me le dites, mais oui, c'était ça.
La description, très cher confrère, est vraiment bien. Ananas volant.
Avec une étoile de mer.
Avec une étoile de mer.
Non, c'était une créature ailée, mais c'était pas un ananas volant. C'était.
Parce qu'il me dit, je peux faire un petit geste de 15.
T'as réussi? Ouais. Oui, il décrit très clairement un Night Gaunt, quoi.
D'accord.
Ah. Oui, c'est un spécialiste du mythe.
C'est une grosse chauve-souris qui ressemble à un chien.
Ah oui, celle-là, oui. Oui.
Très toute filiforme comme ça.
Oui, effectivement.
Des grandes pattes comme ça qui te prennent. Le Lumière, Batman,
c'est pas ce qu'on avait vu Invictus
Oui,
c'est bien possible.
C'était dans Invictus, vous aviez passé un sale quart d'heure avec les Night Guards.
On passe des sales quart d'heure avec toutes les créatures du mythe de toute façon.
Mais on aurait pu passer un très bon quart d'heure. On aurait pu passer un très bon
quart d'heure. Ah oui, d'accord, c'est pas qu'une chauve-souris.
Mais non, c'est. Mais on aurait pu passer un très bon quart d'heure avec les quatre donzelles, mais on a des gens qui pèlent dessus avec une flingue.
C'est peut-être aussi un très bon quart
d'heure. Je crois que c'est le meilleur quart d'heure qu'on aurait pu passer avec elle, honnêtement.
Honnêtement, oui.
Oui, les Night Gaunt. D'ailleurs, tu sais que les Night Gaunt sont des serviteurs de Astur, hein, donc c'est normal. Quoi. Elles viennent. On pense qu'ils viennent de Carcosa, voilà.
Ah ah.
C'est assez logique.
Bon, il se remet un peu de ses émotions, il est toujours un peu.
Oui,
il est enchaîné.
Non, il était même pas enchaîné, puisqu'il était. En fait, ses étoiles de mer le maintenaient dans un sort de coma artificiel, hein, donc il n'avait même pas besoin de moi.
La question, c'est pourquoi.
Non, mais déjà, pourquoi est-ce qu'il a fait cette expérience super chelou sur cette patiente? Tu sais, c'était quoi qu'il essayait d'avoir, parce que ça a foiré. Je sais même pas s'il est au courant que ses patients sont morts.
Mes patients sont morts. Non, je ne savais pas, non.
Ah, leur corps, oui, mais le reste. C'est mieux qu'elle soit morte.
Il vivra éternellement.
Oui, avec des araignées et des plissies affinités.
J'ai toujours été passionné par le sommeil, surtout les rêves. Je ne m'attendais pas. J'ai fait cette découverte extraordinaire, l'existence de cette contrée des rêves. C'est révolutionnaire. Mon traitement était très efficace pour combattre les cauchemars.
Oui, et maintenant tu ne les vis plus juste en rêve, tu les vis vraiment. C'est super efficace. Là. C'est révolutionnaire, tout à fait.
Un moyen de fonder comme un autre.
Et elle, j'ai aidé cette patiente à moi et elle faisait ses rêves récurrents d'un météore qui allait tomber sur un phare et j'ai eu l'intuition que...
On lui dit qu'on est dans le phare.
Que quelque chose allait détruire, que cette météore était un danger pour les contrées des rêves et certainement pour notre réalité à nous. Si jamais les contrées des rêves étaient entièrement détruites par ce météore, ça... le cadeau d'Azalto.
Je fais un heads up, hein. Coco, on est en phare.
Un indice de perte de santé mentale.
C'est le premier. Non, mais... météorite arrive dans
3 minutes.
Tu veux qu'on te remette les petits trucs
sur le tour? Tu sentiras rien. Bon, question subsidiaire, beaucoup plus importante. Les trois autres cocos là, qui étaient dans votre laboratoire, ils rêvaient de quoi eux?
Non, elle était la seule à faire des rêves aussi vivaces. En fait, ils rêvaient tous de, grâce à mon dispositif, qui était une telle découverte, ils rêvaient tous dans de différents lieux de ces contrées des rêves. Certains rêvaient d'une cité qui s'appelle Kadat, d'autres parlaient d'une ville qui s'appelle Ultar. Ils étaient tous à des endroits différents, mais seule elle est venue au phare, a été atterrée par la lumière du phare. Ah. Mais par contre... ce que j'ai découvert à travers mes recherches en explorant ses rêves à elle, puisque Vous êtes au courant de mes recherches, alors vous avez découvert tout ça, vous savez tellement de choses.
ce que j'adore, c'est que le gars, il vient de se faire réveiller. Il y a trois gens devant lui, armés jusqu'aux dents, presque.
Déguisé en marquis.
Déguisé en gars du 16e siècle. Mais comment ça se fait que vous êtes là?
Donne-moi la flingue.
Il y a des questions qu'il ne faut mieux pas poser.
Bon, ce que vous arrivez à extraire de lui, de toute façon, c'est que... il avait sa fameuse machine, là, son dispositif. Hein. Vous savez, il y avait l'eau qui passait à travers le crâne des gens. Et en fait, il récoltait l'eau. Et puis après, si on buvait l'eau dans une durée assez récente après l'usage de la machine, ça permettait aux buveurs d'accéder à une vision, un peu comme une réalité virtuelle, mais pas vraiment d'accéder au contenu du rêve, mais de voir ce que l'autre rêveur avait vu. Et... en utilisant ça, il avait découvert le phare et le danger qui tourne autour du phare. Et il a aussi découvert que, en fait, le haut du phare, il y a au niveau de la fameuse lampe, il y a un dispositif qui a été mis en place par Astur qui pourrait écarter le danger de l'astéroïde, hein, qui est en fait évidemment une partie du corps d'Astur. En utilisant le rayon qui sort du phare, hein, mais pour activer ce mécanisme, il faut absolument qu'une personne se sacrifie. Comme tout ça est de sa faute, il est d'accord pour se sacrifier.
C'est bien, c'est sinon. Je crois que le résultat est quand même le même. Hein.
On lui aurait juste remis l'étoile de mer ou deux et le résultat aurait été même effectif. Hein. Mais c'est une information.
Il était brave comme ce docteur, oui.
Mais il a beaucoup de mal à marcher, donc vous allez devoir l'aider. Hein.
Pas grave, on va le traîner.
On va le piquer un petit peu.
Bon, hein. On retourne avec les quatre filles. Tiens, mettez-le en état. On vient dans 15 minutes. Voilà. Et vous avez intérêt à les deux autres qui restent, là, les deux survivantes. Si dans 15 minutes il n'est pas sur pied, on te pète ta gueule à toi aussi.
La pauvre.
En tout cas, le docteur...
J'ai vraiment leur réaction, tu vois. Terrorisé dans un coin. Alors, les 15 minutes, c'est fait. Bon, on y va.
Pendant que vous êtes en train de fantasmer sur les quatre nanas,
les deux
qui restent.
Le docteur dit, la lumière. Nous devons aller à la lumière, rapidement.
C'est ça.
Tu sais comment monter au étage?
Et bien maintenant que vous avez visité la pièce où se trouvait le docteur, vous ressortez de la pièce où se trouve le docteur et le couloir a disparu, mais il y a à la place une montée, qui monte. Pratique quand même.
Toujours pas d'ascenseur.
Il n'y a pas un petit peu d'orgue qui se joue comme ça?
Bienvenue à Ravenloft. C'est pas le bon château, c'est pas le bon module.
Bon. Eh ben, on n'a pas le choix, hein.
Le module de Ravenloft est pratiquement aussi logique que celui-ci, je crois.
Non, il est pire que ça.
Il est encore plus allumé que celui-là.
Parce que dans Ravenloft, quoi que tu fasses, tu y passes.
Où ça? Ok, donc vous montez 4 à 4, j'imagine, en portant le brave docteur jusqu'au sommet du phare de Leng. Vous arrivez dans une large pièce carrée qui est dominée par un dispositif lumineux gigantesque au centre de la pièce. Et il y a un énorme rayon de lumière vert qui est projeté depuis le dispositif jusque dans le ciel des Dreamlands.
C'est sa grille de lanterne en fait.
Oui, c'est vrai, maintenant vous le dites.
Il est où la bague? La bagouze.
Oh là là.
Si on était dans Delta, donc des êtres des années 80 et 90, on serait là en train de se bouffer de rire parce que Batman, Delta, Superman.
Oui, donc le métal de la pièce est en train de vibrer avec une sorte de subsonique.
What? C'est une boîte de nuit, quoi. Il dansait en bas, ici t'as les lumières.
Et en bas, c'était la première salle un peu classe, un peu classe, truc et tout. Ici, c'est la rave.
Donc, tu
l'as pas mis dans un coin.
C'est ça, en fait, c'est pas un gros faisceau truc et tout, c'est des néons et des trucs comme ça.
C'est la boule à facettes.
Ouais, c'est ça. Non, la boule à facettes, c'est le théorie qui arrive, tu veux.
Et si on avait une boule à facettes géante. Attends, classe.
On prend en ordre de faire ça après.
Des trucs délirants dans les montagnes et tout.
Ouais, censé sauver le monde, nous on fait le parti au sommet d'une tour.
Plus sérieusement, il y a une vibration du métal dans la pièce et même vos dents se mettent à vibrer avec le dispositif au centre de la pièce. Et en fait, il y a une sorte de, quand même de boîte qui entoure l'intérieur du dispositif. Hein. En fait, la pression générale que vous auriez si vous étiez un peu plus contemporain, c'est que vous êtes dans une sorte de moteur nucléaire comme ça. Il y a une sorte de couvercle, de structure qui l'entoure, et le docteur dit qu'il faut absolument ouvrir le couvercle pour...
se faire irradier irrémédiablement.
Mais c'est comme ça que tu sauves le monde.
Mais il y va.
Mais bah, allez-y, cher docteur.
Attendez. Je vais juste faire un dernier truc. Donc là, on est en train de bosser pour Arthur, quoi. Contre...
Tu sais même pas qui c'est Arthur.
Non.
Mais lui, il sait. Oui. On sait juste.
Moi, je veux juste savoir, est-ce qu'on bosse pour le bon? S'il y a un bon qui existe.
Il n'y a aucun bon qui existe.
Aucun.
Parce qu'on est sûr qu'appuyer sur ce bouton-là, c'est vraiment une bonne idée.
Disons qu'il y a des moments où nos intérêts convergent.
Ok.
Et là, c'est le cas pour le moment.
Ok. Donc, vous êtes sûr, docteur, de vouloir y aller?
Mais tout ça, c'est de ma faute. Vous êtes vraiment très sympathisant.
Mais non, mais on a vu ces pauvres victimes là, ces soi-disant patients.
Vous méritez que ça en fait.
Franchement.
Vous allez payer vos crimes.
Ouais.
Ces pauvres gens sont
morts. Vous allez racheter vos péchés comme voilà. Ça. Allez-y.
Donc il ouvre et la lumière du phare, et effectivement, il ouvre l'habitacle. Et il y a une sorte de. Vous êtes devant une sorte d'immense soleil à l'intérieur, même si ça ne vous brûle pas la cornée. Non, il s'apprête à se jeter à l'intérieur, mais par contre, vous devez faire un jet de constitution versus radiation. Combien vous avez en con? Non, dites-moi ce que vous avez en con.
60.
Toujours le petit en bas à droite.
Ah, ok.
10.
Ah, 12.
13.
Oula, 10.
Attends, j'ai pas perdu des trucs là, moi? C'est quoi ça?
Non, t'as 10. Non, t'as. Oh putain.
8. Possible. Ouais.
T'as fait un gribouchat dessus?
Ouais, c'est ça, mais j'arrive pas. Bah, j'imagine peut-être 8 ou quoi, mais.
Ouais, non, si j'ai des trucs, des problèmes de flotte, d'ici là, on a eu le temps de pendant 4
jours. Ouais, t'as le temps de récupérer. Non, mais je parle de constitution, moi. Hein.
Ouais, non, c'est ça, constitution.
Le petit docteur, t'as 13 par exemple.
Mm-hmm, non.
Maurice Bryce, avec une telle constitution aussi frêle, tu n'as même pas besoin de chier les dés, tu es immédiat. T'es pas mort, mais t'es gradé. Avec 13.
Tu te transformes en moule.
Mais bon, je m'en fous, si je meurs ici, je deviens fou à la vie. Bon.
Tu as 15% de chance de résister à la radiation.
Cool.
Et toi, t'as combien en
coup?
Ça va pas être loin lui-même. Tu as 10% de chance de résister. Vous avez une cordiste. Constitution super frêle, vous, les gars.
On laisse tomber.
Allez, vous pouvez dépenser des points de luck, hein, n'oubliez pas.
Non, mais là, c'est pas un pull-up. Hein.
Attends, hein. Bon, okay.
Voilà, c'était quoi de 95, oula. Ouais.
Il y avait la fausse progression.
Elle était déjà très blessée et fatiguée par toutes ces aventures. Si vous vous souvenez bien, quoi, la séquence d'escalade a été très difficile pour elle.
Ah oui, on n'a pas de chance.
Bon, alors on est tous morts.
Non.
Mais oui, il y a que les super-héros qui ont des pouvoirs avec des radiations.
Mais en tout cas. Non, maintenant.
Je brille la nuit, tu l'eau.
Ok, donc le docteur commence à ouvrir donc l'habitacle. Et maintenant, ça. Maurice Bryce, tu dois faire un jet de power A fois 1. Combien on peut...
85.
Non, ton petit score.
17.
T'as une chance. Tu vas faire plus de 17. Ou sinon, tu es pris d'une compulsion à essayer de le tuer. De l'empêcher de se jeter dans le truc.
Plus de 17. Plus de 17.
Oui, moins de 17 pour résister à la compulsion.
Donc moins de 17. Je vais me dire plus de 17. Faut que tu te décides. Je dois faire en dessous de 17 ou au-dessus de 17?
Pour ne pas l'attaquer, en dessous de 17.
46.
Die! Allez, fais un jeu d'attaque. Alors, décris-moi comment tu attaques le gars alors qu'il est en train d'ouvrir la bitèque du bazar.
Est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il est en train de faire un truc qui va pas?
Oh là, ça se passe très très vite. Hein. Lui, c'est parce qu'il est complètement corrompu.
Je vais le cogner avec le.
Avec la...
La pionnière ?
Non, la longue.
Je crois que c'est l'attaque à la pelle comme les deux autres. Là.
La pelle n'a pas sur le vécu, je crois.
La pelle a cassé la pelle.
C'était la pelle de Cthulhu.
Vas-y.
Je dis.
Il fallait qu'elle sorte la pelle de Cthulhu.
Pong. Le bruit mat que ça fait, une pelle contre le crâne.
C'est pour ça que ça l'a réveillé.
Donc tu l'attaques avec la longue vie, c'est
ouais,
ça
ouais.
Allez, vas-y.
C'est quoi ça?
Bon, ça va être brawling, un truc comme ça.
Heureusement, je suis nul. 0-1. Merde.
Attends, ça va être. Faut que je m'habitue à ces nouvelles feuilles de perso, mais.
Donc j'ai la longue vue dans une main et j'ai le masque dans l'autre. Et je le.
Et tu frappes avec le masque.
Oui, t'es...
C'est je pire les pédales et je l'attaque avec les deux.
En fait, ça va vraiment sembler une répartition avec le truc.
T'es vraiment nul, donc en fait, t'as pas de score, t'as 25% de chance. Et t'as fait?
Ne me dites pas que
j'ai fait 20.
C'est tellement réussi. Tu peux calculer les dégâts, t'as, avec à main nue, tu fais un des 6 de dégâts en fait.
6.
C'est ultime.
Tu lui enfonces
direct sur la tempe.
Tu lui enfonces là. L'ombre à travers le crâne. Vous entendez juste un bruit squam. Et le gars s'effondre sur le sol.
Pourquoi t'as fait ça? Qui c'est qu'on va sacrifier maintenant?
Oui, il y en a un qui a merdé ici, je sais comment sacrifier.
Bon, il va falloir retrouver des filles maintenant. Il en reste deux.
Ah, c'est pas bête, c'est pas bête.
Il est mort?
Ça pourrait être mort, il est mort.
Avec 6,
c'est si on le jette dedans.
Tu t'es déjà blessé au départ et tu lui as traversé percer le crâne avec ta longue vue.
Merde.
En fait, ce qui était marrant, c'est que c'est passé et puis c'est sorti par son nœud, t'as la longue vue qui sortait.
Et ensuite,
On fait quoi maintenant?
Bah vous entendez en tout cas, vous voyez la météorite qui devient de plus en plus gros dans l'espace, il est en train de descendre, vous pouvez pratiquement l'entendre, l'impact est imminent.
Donc on peut savoir ce qu'il faut faire.
Bah il suffit de se jeter dans le bazar.
On va choper la fille.
Bah alors je me jette dans le bazar.
Si tu veux. Le plan des filles était relativement...
On peut pas aller chercher une des filles, acheter dedans.
C'est pas la fin du cinquième élément.
Et si on rêve de la fille qui arrive là, si on cumule tous nos points pour matérialiser la fille à sacrifier, ou pour même le ressusciter, tiens, y a pas moyen?
Ça va demander beaucoup de. C'est un dilemme moral, comme dans l'appel de Cthulhu, vous devez choisir un d'entre vous.
Je me jette dedans.
Non, c'est pas fun.
Maurice Bryce, le plus vieux personnage de la campagne.
C'est ça, et le seul qui a réussi à choper un peu des pouvoirs et des trucs.
Le seul qui a des points dans le mythe de Cthulhu, suffisamment pour réussir ce jeu.
Attends, t'es beaucoup plus vieux, c'est ça?
Trop tard.
Mais t'as pas sauté.
Ah, il a sauté.
Non, mais attends, tu nous as déjà feinté avec. T'as couru sur l'autre en le tapant et tout. Maintenant, on est près de toi, genre. On peut t'empêcher si tu commences à faire des trucs chelous.
On peut tous sauter ensemble, hein, comme ça. Ça fait bien en beauté.
Vous pouvez tous.
On se prend la main comme ça, dans la lumière, oui. Avec un petit fusil derrière.
Allez, Maurice Bryce, vous avez du mal à comprendre ce qui passe. Il tue le gars. Et puis, subitement, il se jette lui-même dans un moment de sacrifice dans la lumière.
Il est mort comme il a vécu.
Voilà. Évidemment, la lumière devient extrêmement brillante à l'instant. Quand évidemment Maurice Bryce disparaît à l'intérieur, le phare s'active et vous sentez qu'il a sauvé non seulement le monde des rêves, mais aussi le monde réel par son acte héroïque. Yes.
Et il se réveille dans son lit.
Non.
Comment ça, non? C'était ça ton plan depuis le début? J'étais limite en train de faire une petite larme en mode genre, t'es quand même un chip-tick, ce mec, tu étais rien à foutre, je vais rentrer, je vais prévenir.
Ben si, la règle du monde des rêves dit bien que s'il meurt dans le monde des rêves, oui, quelqu'un.
Mais attends, attends, il est pas mort, il s'est pas cogné la tête contre un caillou là, il s'est jeté dans,
bah
une
oui, mais ça
de...
dans un réacteur du monde des rêves.
Ben, qu'est-ce que dans un réacteur écrasé par un mammouth ou noyé dans une fiente de baleine, ça n'a pas d'importance, il est mort.
Non, mais là c'est les frontières, la réalité du monde des rêves.
Le monde. Attendez pas à celle-là.
Je vais capituler le règlement du monde des rêves.
Oui, et d'ailleurs tu t'es sacrifié comme un volet.
Mais non. Mais on se dit,
pas. Tant pis. Et les deux autres, en fait, sont venus avec leur corps physique dans le monde des rêves. Et en fait, l'énergie du phare vous englobe et vous réveillez au niveau. Vous retrouvez dans l'eau glacée de la grotte et vous. Et vous ressortez
dans la grotte. C'est comme les pièces légendaires dans Oblivion, je crois.
Ouais, vous êtes revenus dans le monde réel.
Attends, parce que cette grotte était horrible, je me rappelle, on a fait se noyer par le vent. Là, faut qu'on se grouille pour survivre.
En fait, vous vous demandez si vous n'avez pas rêvé, hein. Peut-être que vous étiez dans l'eau de la grotte, puis vous êtes ressorti.
Ça, c'est clair qu'on a rêvé, ça, ça ne fait aucun doute, mais...
Par contre, évidemment, malheureusement, quand vous retournez à l'hôtel, vous retrouvez que le docteur Bryce est toujours vivant, mais il est apparemment non réactif. Il a l'air d'être dans un coma prolongé, végétatif. Ouais. Voilà. Et comme vous avez été irradié, vous perdez 1d6 divisé par 2 en strength et con, et 1 point d'intelligence et de size. Ceux qui ont raté leur jet d'irradiation, moi, c'est tous raté, je crois.
Ouais. Et du coup, 1d6 de
1d6 divisé par 2 en force.
Ok, ah,
ça fait un.
Oui. En force,
ça fait 2. Elle est où celle-là ?
Je suis dans les caracas. Con, constitution.
Même chose ?
Ouais.
Okay. Ça fait 2 aussi.
Bon, ça fait 2 aussi.
Et 1 en intelligence et 1 en taille.
Et en quoi ?
En taille, size. Size, c'est la taille.
En taille.
C'est bien, plus grand, c'est bien le plus grand chiffre qu'on retient.
Mmh. Okay. Oui, oui, oui.
79. Et en intelligence aussi.
Et en taille.
Comment
taille, size.
Que tu veux dire qu'on est plus petit ?
Oui, comme t'as été irradié, c'est une sorte de cancer et en gros, ta taille a diminué. Ouais.
Taille, c'est aussi ta force.
Ouais,
c'est ta constate.
Ah, ok, ça va.
J'étais un peu voûté, quoi.
Et ben voilà, ça finit le...
Donc quand on finit un truc du mythe de Cthulhu, on perd des caractéristiques.
C'est bien, oui, c'est tout à fait ça, oui. Mais vous avez gagné, enfin... Après le sacrifice héroïque de Morose Bryce. Là, on est moins content.
Il pouvait se réveiller gentiment.
Là, c'est pas impossible. Il est toujours vivant. Et on est quoi, États-Unis, quelle époque,
bon,
déjà 30
ans enfin, écoute, il y en a...
Bah, ça m'étonnerait qu'il le débranche.
On n'a plus qu'à devenir cultiste et trouver un moyen de revenir.
Mais non.
Mais je vois bien le truc, ça, en suspens, tu vois.
Ouais, mais en même temps, oui, moi aussi j'aime bien ça, j'aime bien cette idée d'en suspens, mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu une chouette fin pour le personnage, et d'ailleurs pour la campagne, parce que je vais recevoir Assaut sur les montagnes hallucinées dans quelques mois, enfin très bientôt, il est terminé, donc on va bientôt enchaîner sur Assaut sur les montagnes, et donc c'est vrai que, en plus le personnage de Morose Bryce commence à devenir injouable avec ses caractères, c'était pratiquement trop cultiste.
On va recruter des cultistes.
C'était, moi, je trouve que c'était.
Il est devenu son propre grand ancien.
Je trouve que c'était une particulièrement belle fin pour le personnage. Fireboy. Quand même, il a sauvé les Greenlands, sauvé la Terre.
Il a tabassé une prostituée.
Il a démoli.